Fiesta Milana. Rétrospective de l'actualité de la semaine.
Chers auditeurs et auditrices de la radio Inzambaga Tekakawe, nous sommes 25 juin 2023. C'est le grand rendez-vous de l'actualité qui a marqué cette semaine écoulée. À la présentation, vous êtes avec Bonfils Niongere. Ouvrons cette rétrospective de l'actualité par le bilan sur les droits de l'homme après 3 années au pouvoir d'Evariste Ndayishimiye. Selon le rapport de la Ligue TK, plus de 1800 personnes ont été tuées, plus de 120 enlevés et plus de 200 victimes de torture. Ces exactions sont commises en grande partie par les jeunes Imbonerakure en collaboration avec certains membres des corps de défense et de sécurité et ceux du Service national des renseignements. En chef, Nico Yagize, président de la Ligue TK, demande au président Ndayishimiye de rectifier le tir pour lutter efficacement contre l'impunité. Je vous prie de l'écouter.
Concernant la situation des droits de l'homme et sécuritaire, que la Ligue TK suit de près, on remarque que des assassinats sont toujours observés. Durant ces 3 ans, 1806 personnes ont été assassinées et la Ligue TK s'inquiète également par le phénomène des cadavres qui se retrouvent d'ici et là, dans les ruisseaux, dans les marais, dans les caniveaux, et que pas d'enquête pour connaître les mobiles et les identités de ces personnes assassinées. Autre chose, les disparitions et arrivements continuent, car durant les 3 ans, la Ligue TK a pu documenter ça, 38 cas. Vous entendez que c'est dans un pays où les responsables du pays ne cessent pas de dire qu'il y a pérenne, et avec son nombre, c'est à la moitié. Les violences sexuelles basées sur le genre continuent aussi d'une allure inquiétante, car malgré les défis lié au travail de la Ligue TK, nous avons pu documenter 376 cas. Des tortures aussi continuent, 201 cas ont été documentés et des arrestations arbitraires sont aussi observées. Durant les 3 ans, la Ligue TK a pu documenter 1964. Alors que le pouvoir en place prenait toujours qu'il faut libérer les cachots, mais une chose est son contraire. Il doit d'abord faire un travail aussi énorme dans ce système. Si c'était un système verrouillé, c'est un système où les criminels sont toujours là. Il faut d'abord les tenir ces présumés auteurs. Parce qu'en réalité, on remarque vraiment que le fait que cette violation persiste, c'est qu'il y a toujours l'impunité qui règne.
Toujours dans le chapitre de l'évaluation des activités de 3 années au pouvoir d'Evariste Ndayishimiye, les activités des partis politiques de l'opposition n'ont pas été visibles. Cela prouve également que la gouvernance basée sur le multipartisme et la démocratie sont de loin être une réalité au Burundi. C'est du moins le constat qu'a fait Frédéric Bamvuginyumvira, président de la coalition des partis politiques et de l'opposition, CEFOR. Arusha, pour lui, le Burundi ne peut avancer parce que le président ne s'est pas fait entourer par de vraies personnes. On l'écoute.
Et sur le plan politique, l'organisation politique du pays continue justement à avoir des points qui laissent à désirer. Notamment l'organisation des partis politiques. On voit que les partis politiques en réalité ne fonctionnent pas, n'existent presque pas, ils n'existent que de nom et fonctionnent au ralenti. Le CNDD-FDD qui semble fonctionner n'est pas un parti politique comme tel, c'est une organisation des personnes qui ont décidé justement de faire main basse sur le pays. Ça on le voit, donc on ne peut pas dire qu'il s'agit véritablement d'un parti politique. Il faut réorganiser la classe politique pour qu'elle puisse rayonner et orienter le pays sur la voie de la concorde nationale et du développement. Je crois que c'est cela qui devrait quand même être visible dans sa politique, ce qui n'est pas le cas. Autre élément important que je considère comme capital, c'est de laisser la société civile venir exercer ses fonctions, laisser tous les politiciens rentrer dans leur propre pays, laisser les radios privées qui ont quitté le Burundi de retourner exercer leur métier et pour que justement le peuple puisse être capable de suivre ce qui se fait dans son propre pays. et absolument arrêter cette histoire de haine, cette histoire de peur qu'on observe dans le pays, et finalement amener le peuple à travailler et à manger à leur faim. Tout ça sont des éléments qui laissent beaucoup de choses à désirer, franchement, à tel point que on peut dire que le bilan de Ndayishimiye est un peu positif, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore négatives, qu'il doit corriger, s'il le veut bien.
Au chapitre de l'économie et de la bonne gouvernance, l'actualité qui a marqué cette semaine de la pénurie du carburant de type essence peine à trouver une solution durable dans la mairie de Bujumbura. De longues files d'attente de véhicules s'observent ici et là sur les quelques stations-service qui avaient ce produit. Les conducteurs de véhicules, surtout ceux de transport en commun, sont mécontents, demandent que ce problème soit résolu une fois pour toutes. Les détails avec Pierre Gahungu.
En mairie de Bujumbura, au centre-ville, s'observent de longues files de véhicules sur des stations au boulevard de Luprona, des conducteurs de véhicules désespérés, d'autres somnolent dans leurs véhicules alors que d'autres se rassemblent pour parler de tout et de rien. Ceux qui se sont entretenus avec la radio Inzamba à Gatekakawe font savoir qu'ils viennent d'y passer 2 jours sans être servis. Dans l'espoir de pouvoir enfin trouver où ils peuvent s'approvisionner en carburant, ces chauffeurs disent qu'ils vont rester devant les stations-service jusqu'à ce qu'ils soient servis. Peu importe le temps qu'ils vont y passer. Sur ces stations-service, des motards avec des réservoirs démontés attendent aussi. La pénurie de carburant commence à perturber le quotidien des habitants de la mairie de Bujumbura. Certains habitants de la mairie qui se sont entretenus avec la radio Inzamba déplorent cet état de fait qui les met dans un embarras total. En plus de perdre beaucoup de temps, ils accusent des retards répétitifs au travail, ce qui cause des malentendus avec leur chef de service ou employeur. Ces habitants précisent que parfois, ils ratent même des rendez-vous importants. Tous demandent au gouvernement de prendre la question en main. Face à la récurrence des pénuries, le gouvernement burundais a décidé de confier l'approvisionnement en essence à la Régie des eaux, société publique en charge de la distribution de l'eau et de l'électricité. Les autorités avaient ainsi l'espoir d'avoir davantage de contrôle sur les approvisionnements, une décision qui n'a jusqu'ici pas porté ses fruits selon les organisations de la société civile burundaise.
Merci à toi Pierre Gahungu. Par rapport à cette pénurie du carburant, l'ONG locale Parsem, Parole et Action, pour le réveil des consciences et le changement des mentalités, lance un appel au gouvernement burundais pour changer de stratégie afin de trouver une solution durable à cette question. Une question qui est en train de causer du tort énorme à l'économie nationale et à la vie de la population. Faustin Likumana, directeur national de Parsem, demande au gouvernement de réorganiser le circuit d'approvisionnement et rompre avec le système du monopole. Suivez Faustin Likumana.
Parsem lance un appel au gouvernement vraiment de changer de stratégie par rapport à la pénurie du carburant. Parce qu'on est tenté de s'accommoder d'une situation difficile. La pénurie de carburant est devenue récurrente, est devenue endémique et commence à causer un tort énorme à la vie économique des populations. Moyen de déplacement, circuit économique, échange. Vraiment, on est pour le temps qu'on doit perdre toujours. Attente du carburant. Maintenant, on perd du temps à la banque pour avoir son argent. On a obligé de faire une file d'attente pour avoir du carburant. C'est pénible. Le gouvernement vraiment doit changer de stratégie par rapport à l'approvisionnement en carburant. Il faut vraiment rompre avec ce monopole. Même si c'est un monopole où on a choisi une entreprise, où on a retenu une entreprise publique telle que la Régie des eaux, la Régie des eaux n'a pas de capacité logistique pour organiser le circuit d'approvisionnement d'amont en aval. Donc il faut qu'il y ait d'autres acteurs. Il faut une compétition, choisir 2 ou 3 acteurs. Il faut une transparence dans le circuit d'approvisionnement du carburant. Qui approvisionne le Burundi en carburant aujourd'hui? Il faut qu'on ait une situation. Sinon, la Régie des eaux ne peut pas être capable de le faire. Elle n'a pas de capacité logistique. Qui doivent intervenir pour épauler et pour combler ce défi de la Régie des eaux? Le stock stratégique. Pourquoi jusqu'à maintenant, on n'a jamais construit un stock stratégique pour avoir une capacité de carburant ici dans le pays 3-6 mois? Il y a des pays qui même ont un stock carburant même jusqu'à une année. Mais aujourd'hui, ici au Burundi, c'est à peine une journée, 2 jours, 3 jours. Aussi, la gestion des devises. S'il faut une gestion parcimonieuse et transparente des devises, nous imaginons que la Banque centrale, au niveau des importations, doit prioriser des produits prioritaires comme le carburant, les médicaments et autres. Mais On se demande, est-ce que aussi la dévaluation qui vient d'être opérée par la Banque centrale au niveau du marché officier de 2000 à 2008 n'est-il pas en train de causer vraiment une difficulté à ceux qui, approvisionnent le Burundi en carburant? Est-ce qu'il n'y a pas d'impact? Il ne faut pas occulter une certaine réalité qui est en train de faire un impact visible au niveau des populations. J'imagine que le gouvernement doit faire preuve de sagacité pour inverser la tendance.
Espoir, Horde chez toi, c'est le thème de la journée internationale du réfugié célébrée 20 juin. Marguerite Baranghitse, représentante légale de Maison Shalom au Rwanda, a interpellé les réfugiés burundais, surtout partout où ils se trouvent. Pour elle, ils peuvent être des opportunités pour les pays qui les hébergent en se prenant en charge, en travaillant dignement pour sauver leur honneur. Écoutez, Marguerite Baranghitse, elle est la représentante légale de Maison Shalom.
Nous sommes des bâtisseurs d'espérance. Comme on le dit, le thème d'aujourd'hui, c'était « Hope away from home ». Donc, l'espérance, l'espoir, loin de chez toi. Comme nous sommes des bâtisseurs d'espérance, nous, en tant que réfugiés, c'est un message de dire au monde entier que nous ne sommes pas une charge. Nous pouvons être des opportunités, nous pouvons apporter des apports économiques au pays qui nous a accueillis. À la communauté qui nous a accueillis, nous disons, nous pouvons nous-mêmes nous prendre en charge. Mais il faut qu'ils nous donnent la sécurité et il faut améliorer les conditions du pays où nous sommes. Parce que nous n'avons pas décidé d'un jour... L'autre pour dire, ok, nous avons fui l'insécurité, nous avons fui la persécution. Donc il faut qu'on aide les pays qui nous ont chassés à recouvrer cette sécurité pour que nous puissions y retourner dignement et rebâtir notre patrie.
Cette journée est arrivée au moment où certains réfugiés vivant dans la région des Grands Lacs vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Ceux qui ne sont pas tués sont persécutés selon la Coalition burundaise pour la défense des droits de l'homme et des réfugiés vivant dans les cas les plus parlants sont ceux des réfugiés vivant en Tanzanie qui ont vu leurs champs de culture et leur commerce détruits à maintes reprises. Est interdit à faire des activités génératrices des revenus. Je vais Jean Bosco Vizigiro, il est chargé de la communication au sein de CBDH Vicar.
Les réfugiés qui se trouvent dans les cas de réfugiés dans les pays des Grands Lacs sont dans une situation très déplorable où nous pouvons citer quelques cas malheureux. Au Malawi, par exemple, dans ces derniers jours, au CBDH Bika, nous avons donné un rapport où les réfugiés qui se trouvaient dans les villes ont été refusés de vivre dans les villes et ont été obligés d'être embarqués vers le cas des réfugiés, de quels cas ne sont pas à mesure d'accueillir ou de contenir le nombre de réfugiés que nous avons signalés. Nous signalons aussi le cas de la Tanzanie, où les réfugiés se sont vus refuser de se faire soigner, refuser d'aller faire les activités quotidiennes des champs, se sont vus même refuser aux enfants d'aller à l'école, dans une seule situation qui dit que lorsque nous les refusons, ces droits ou ces avantages, ils seront obligés de rentrer obligatoirement. Alors que dans le contexte de tripartite, c'était convenu que les réfugiés rentrent volontairement. Nous citons aussi le cas de l'Ouganda, où dans moins de 18 mois, nous avons enregistré 11 réfugiés tués d'une façon arbitraire et très récemment, il y a eu le 12e d'une de Alexis Nimubona qui a été tué. Dans tous ces contextes, il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu de justice en faveur de ces réfugiés. Aussi, cette journée internationale des réfugiés vient au moment où, dans presque tous les camps de réfugiés, on assiste à une diminution progressive des vivres pour les réfugiés. C'est dans son contexte que nous demandons aux organisations internationales en charge des réfugiés de chercher les moyens de toquer sur toutes les portes pour rehausser la situation quotidienne des réfugiés. Nous demandons aussi à ces pays qui hébergent les réfugiés de revoir le contexte sécuritaire en faveur des réfugiés, parce que dans le statut de Genève signé en 1951, lorsque les réfugiés sont dans ton pays, c'est le pays qui est responsable de la sécurité, bien sûr en partenariat avec les organisations responsables.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est parce que nous mettons un point final à cette rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine. Auditeurs, auditrices de la radio Nzambagate Kakawe, passez un bon dimanche chez vous et à la prochaine.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.